citoyens, associations et experts prennent la parole au micro de vos radios associatives en Hauts-de-France pour une démocratie vivante et participative. Le sommet citoyen, parlons enfin de ce qui compte. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue en direct de Lille depuis le garage Les Lillois Boulevard Carnot, un espace de rencontre, de réflexion et de création. Et c'est exactement ce qu'il se passe depuis hier et jusqu'à demain puisque ce lieu accueille la troisième édition du sommet citoyen du G500. Un événement itinérant qui se déroule cette année à Lille après deux premières éditions à Marseille. Au programme, trois jours pour s'interroger sur l'état de notre démocratie, débattre, échanger et plancher sur des résolutions de terrain par les citoyens et pour les citoyens. Tout au long de ce marathon des idées sur vos radios associatives en Hauts-de-France, des médias qui sont des médias citoyens engagés au quotidien pour faire bouger les choses, nous accueillerons des associations, des acteurs, des citoyens, des experts qui viendront nous parler de leurs engagements et de leurs idées. À mes côtés, pour animer cette matinée, Jean-Philippe Planck, bonjour.
Bonjour.
Et Thierry Tempé, bonjour.
Bonjour.
Le marathon des idées en direct du sommet citoyen à Lille, c'est maintenant. Vivez le marathon des idées citoyennes en direct sur vos radios associatives en Hauts-de-France. Et on démarre cette matinée en compagnie d'Aurélie Gros, présidente d'Idéal Citoyen et cofondatrice du G500. Bonjour.
Bonjour.
Alors le G500, c'est un regroupement de 8 associations fondatrices, 500 000 sympathisants et régulièrement des temps forts, dont ce sommet citoyen qui, pour sa troisième édition, est donc arrivé à Lille. Un collectif qui cherche à agir, parce que j'ai parlé de débat en introduction, mais on est bel et bien sur de l'action, pas uniquement sur de la réflexion, notamment parce que aujourd'hui et demain, on construit des résolutions citoyennes. Expliquez-nous.
Tout à fait. En fait, c'est une nouvelle fabrique des idées. Aujourd'hui, c'est bien gentil de faire des débats, mais on a l'impression qu'on va blablater, qu'on va refaire le monde dans de l'entre-soi. En réalité, non, c'est une vraie méthodologie qui a été mise en place avec des étapes régionales qui ont été faites pendant un an. Et le sommet est l'aboutissement, en fin de compte, de ces étapes régionales où plein de résolutions citoyennes, associatives, de bonnes expertises sur les territoires sont remontées à Lille. Et on vote pendant ce sommet sur ces résolutions, notamment grâce au vote qui s'est déroulé pendant un an sur les diverses réunions et diverses étapes, mais également par le jugement majoritaire pendant toute la durée du sommet.
Alors vous venez de nous l'expliquer, il y a eu des étapes régionales, on pense à l'étape santé qui a eu lieu à Lille en novembre dernier, justement c'était chez nous. Ces étapes, elles ont permis déjà de débroussailler le travail, mais donc ce sommet, c'est compléter ce qui n'a peut-être pas encore déjà été dit.
C'est compléter, rééchanger, éventuellement amender, parce qu'il y a toujours des idées qui peuvent naître du terrain et avec d'autres personnes qui viennent participer. Et c'est surtout classer ces résolutions par ordre d'importance, parce que quand on veut porter des choses et qu'on veut les porter correctement à nos décideurs, on ne peut pas arriver avec un cahier de 1000 propositions, ce serait complètement délirant.
Alors, quel est le programme, justement, pour aujourd'hui et pour demain?
Alors, pour aujourd'hui, à 11h, nous avons la grande concertation sur démocratie, le contrat de confiance, notamment avec les membres de la coalition qui militent pour des états généraux de la démocratie. Comment on refonde tous ensemble notre démocratie qui va mal? Moi, je le dis, et je voudrais le dire à vos auditeurs, nous, on se bat parce que les démocraties sont mortelles. Et on oublie souvent que lorsqu'on vit dans une démocratie, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont mal. On ne peut pas dire que ce soit tout beau, tout rose. Mais à un moment, si on ne s'implique pas et qu'on ne donne pas des gages à cette démocratie aussi en tant que citoyen et qu'on ne participe pas, il ne faudra pas se plaindre si on arrive progressivement, comme beaucoup de pays d'Europe, vers une autocratie. Donc nous, on se bat là-dessus. Donc on a une grande concertation là-dessus, des échanges. On va essayer de revoir les contours sans être complètement extrémiste dans nos pensées. C'est vraiment une révolution d'idées positives. Cet après-midi, justement, vous parliez de la santé. Nous avons la table des négociations avec notamment des élus qui ont été invités, deux sénateurs, deux députés, pour essayer de faire la parité, mais pour faire ce qu'on appelle, nous, une commission mixte tripartite. Alors c'est un jeu de mots par rapport à la commission mixte paritaire, mais tripartite, c'est-à-dire sénateur, député, donc le Parlement, et le tiers secteur, les associations et on va échanger sur ce travail qui a été effectué notamment à Lille pendant de nombreuses heures, mais aussi un travail de recherche de toutes les propositions des associations et des syndicats sur qu'est-ce qu'on fait avec notre système de santé aujourd'hui. Quel système de santé voulons-nous? Comment on le sauve? Voilà. Et on a écrit une loi de programmation et d'orientation santé qui fait 150 pages et qui est un bel exercice pour nos décideurs, et en tout cas où ils pourront largement s'inspirer. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que si les syndicats, l'interprofessionnel, c'est-à-dire les infirmières, les ambulanciers, la santé environnementale, les médecins généralistes, les médecins hospitaliers, les médecins de ville, sont capables de s'entendre et de ne plus fonctionner en silo, pourquoi nos décideurs n'arrivent pas à travailler ensemble pour sauver la première préoccupation des santé des Français, oui, qui est la santé. Voilà. Et ensuite, la table des négociations. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? La justice, important. On avait fait une grande réunion autour du populisme judiciaire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la place des médias...
On est en plein dedans.
On est en plein dedans, exactement. Et ça rejoint la question des démocraties versus autocratie, parce que c'est intimement lié. Quelle est la place de la justice ? On aura une table ronde sur le handicap pour enfin tenir nos promesses. La culture avec l'exception culturelle qui va mal aussi. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire une exception médiatique. Ça, c'est... Non, mais à voir, parce qu'aujourd'hui, on remarque que vous êtes un média associatif, vous êtes engagé, vous avez des convictions. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias qui font mal quand même, qui font très très mal à la France, sans les nommer évidemment. Et voilà, et après on fera un petit apéritif de la fraternité, n'est-ce pas ? Parce que de temps en temps, il faut aussi prendre du plaisir et échanger.
Vous parliez, Aurélie Gros, tout à l'heure de tentation au niveau de l'autocratie. Hein, beaucoup de peuples qui, malheureusement, s'orientent vers ça. Il y a quand même un baromètre, celui du CEVIPOF, l'édition 2025 du baromètre de la confiance politique, où il y a un chiffre qui est quand même très effrayant. 73% des Français qui veulent un vrai chef en France pour remettre de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, ça veut dire que généralement, vous voyez, les citoyens, c'est ceux qui défendent le plus la démocratie qui nous emmène vers un système autoritaire. Ils demandent de l'autoritarisme parce qu'ils n'ont plus confiance ou ils trouvent que notre démocratie est faillible et n'arrive pas à se retrouver à l'intérieur. Donc ils pensent que plus d'autorité va mettre plus de démocratie. Or, c'est le contraire. On a vu des pays, bon, je ne vais pas citer la plus grande démocratie du monde, qui aurait pensé que la plus grande démocratie du monde veuille enfermer bientôt un de ses collègues élus démocrates, l'envoyer en prison, envoie l'armée face aux citoyens. Non mais on est dans un monde qui est complètement délirant, franchement délirant. Et quand on voit ça, bah, c'est à nos portes. Il y a la guerre, il y a les conflits mondiaux qui ne font que aussi exciter l'ensemble. Et la demande de beaucoup plus d'autoritarisme, on va dire, c'est aussi la peur quand les conflits sont aux portes. Quand les gens ont les conflits aux portes, ils sont plus du tout sereins. Donc voilà, moi je pense qu'il faut tous se battre, et c'est ce qu'on essaye de faire conjointement. Il faut tous qu'on mette notre petite pierre à l'édifice pour sauver cette démocratie, sinon on va vers une catastrophe.
Julien.
Alors hier, l'événement a fait une large place consacrée aux échanges internationaux avec un parterre d'invités venus d'endroits où la démocratie est clairement en danger, pour ne pas dire parfois inexistante. En France, on entend vos inquiétudes. Est-ce que tout de même le débat démocratique se déroule de manière saine ?
Ah non, mais quand vous voyez, il n'y a plus de majorité à l'Assemblée. La 5e République, par exemple, n'est pas faite pour ne pas avoir de majorité à l'Assemblée. La 5e a été faite avec un président qui a beaucoup de pouvoir, mais avec une majorité claire et nette, ou pas une majorité, mais une opposition claire et nette. Là, aujourd'hui, vous n'avez pas de majorité, vous n'avez pas réellement d'opposition, donc on est dans un flottement où, en fin de compte, ce qu'on observe et ce que les citoyens ne comprennent pas, c'est qu'on a plutôt un président avec beaucoup de pouvoir, c'est ce qui est unique au monde, hein. Il n'y a que le président de la France qui a autant de pouvoir, qui est capable quand même de faire voter des lois sans l'Assemblée nationale, puisqu'il y a le 49-3, il est capable de ça, il est capable de dissoudre l'Assemblée. Donc, où est la démocratie ? Et ça, maintenant qu'il n'y a plus de majorité, bah forcément, les Français le voient et ne comprennent pas et pensent qu'ils ne sont plus dans une démocratie.
Aurélie Gros, qu'est-ce que vous pensez de cet épisode qui s'est produit juste après la dissolution ? Donc, un groupe politique qui arrive en tête et qui finalement n'est pas nommé.
Il arrive en tête, mais il n'a pas la majorité. Et c'est bien le problème. S'il avait eu la majorité, la question ne se poserait même pas. Donc Moi, je,
mais c'est vrai que
je pense
qu'il y a
certains
citoyens, ça peut être synonyme de, d'incompréhension.
Et
parce
ben, ils
que
ne peuvent
c'est
pas comprendre. Mais on est bien d'accord.
Ça, effectivement.
On est bien d'accord. C'est même aberrant. Donc, on a un gouvernement mou, faible, faible. Il est en faiblesse, puisque même le gouvernement nommé, il n'a pas de majorité. Donc aujourd'hui, on risque une dissolution en septembre, une nouvelle dissolution, qui mettra le système économique en très grande difficulté, parce que vous savez que quand il n'y a plus de gouvernement et qu'on est comme ça dans l'incertitude, bah, on n'a pas d'orientation, donc il y a le vote du budget qui va arriver, dissolution de l'Assemblée, plus de gouvernement en fin de compte, donc on va renommer un gouvernement. Je veux dire, c'est devenu une triste farce.
Vous avez été élu, et vous avez quitté votre parti politique, les LR. Ouais. Est-ce qu'il est plus facile de faire passer ses idées à travers une association qu'à travers son parti politique ?
Écoutez, il y a un sondage qui a été passé avec un de nos partenaires Sud Radio hier.
Qu'on salue.
que vous saluez, évidemment, qui disait « Est-ce que les associations sont plus importants que les partis politiques ?» Et aujourd'hui, on est à 50-50 dans les réponses, donc ça continue à voter pendant... Moi, je pense que la responsabilité des partis politiques est énorme dans ce qui se passe. Parce que nous, on existe parce que les partis politiques ne construisent plus avec leurs militants de base programmatique. Il n'y a plus de colonne vertébrale. Vous avez une hyper-personnalisation de la politique. Mmh. On vote pour un candidat, vous regardez les programmes. C'est illisible, c'est à peu près tous les mêmes. Vous me direz les grosses différences qu'il y a entre tous les programmes à la présidentielle, vous allez en trouver, hein, mais c'est pas énorme. Donc on va voter pour une personne en particulier parce qu'elle exprime quelque chose, qu'elle va sur les plateaux télé, qu'elle représente bien, qu'on se dit qu'elle va être bonne, etc. Et moi, j'ai effectivement quitté, à l'époque, quand j'ai monté mon mouvement, parce que je trouvais que, comme on est non-partisan, étant déjà élu, bon, même si c'est élu local, je trouvais qu'avoir un engagement, ça... Mm-hmm. Bah, ça met le doute quand même sur l'engagement non partisan et qu'on voulait vraiment regrouper très large. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un autre problème, c'est qu'il y a quand même un président de la République qui est élu avec 1% en fin de compte des Français. Il est choisi par 1% des Français. Parce que les partis politiques et les syndicats, c'est 1% de la population. Après, vous vous posez la question, pourquoi les Français, 99% pensent qu'ils ne sont pas représentés ? Bah oui, ils n'ont pas choisi leur candidat. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir aussi au niveau de ça, ou en tout cas, je pense qu'on a besoin de partis politiques, parce qu'on est dans des élections partidaires, mais il va falloir qu'ils se mettent un gros coup de pied au derrière, si je peux me permettre l'expression, et qu'ils reconstruisent des lignes, et qu'ils redonnent envie de faire de la politique dans le sens vie de la cité. Je crois que vraiment, c'est une urgence démocratique pour le coup.
Le levier, justement, on agit où ? Est-ce qu'on agit sur la représentativité des Français dans les instances politiques ? Puisque vous le disiez à juste titre, il y a un sentiment de non-représentativité. Est-ce qu'on agit sur le contenu, la proposition, ce que vous faites aussi au travers de ce sommet ? Où est-ce qu'on agit pour corriger ça ?
Pour corriger ça, bah, il faut que les citoyens comprennent l'importance de l'élection. Aujourd'hui, ils se désintéressent. Quand vous avez les trois piliers de la République qui flanchent, c'est-à-dire la loi, le consentement à l'impôt et le vote, et qu'on a autant d'abstention qu'aujourd'hui, ça veut dire que quelque part, ils pensent que ça ne sert plus à rien. Donc je pense qu'il y a une réforme profonde de nos institutions qu'il faut avoir. Ça, c'est évident. Je pense que pour que les Français aient l'impression d'être... Bah, c'est un débat qui va avoir lieu d'ailleurs à l'Assemblée nationale sur la proportionnelle. Moi, personnellement, je suis pour la proportionnelle. Il n'y a pas assez de représentants à l'Assemblée nationale.
On se posait la question tout à l'heure, effectivement, regarder le nombre, par exemple, d'ouvriers...
Mais c'est ridicule. C'est ridicule, oui. Et à un moment donné, je trouve qu'il faut aussi que les politiques comprennent que, du moins les partis politiques, laissent de la place à des nouvelles figures, les invitent à venir. Parce qu'aujourd'hui, qui pense qu'il va pouvoir se présenter ? Vous voulez vous présenter aux législatives ? Ça coûte, alors c'est remboursé, en partie si vous faites 5%.
Si on fait 5%,
mais ça coûte
oui.
En moyenne 60 000 euros. Mmh. Bah, si vous êtes ouvrier, vous n'avez pas forcément 60 000 euros à mettre. Vous voyez ? Donc c'est réservé quand même, il y a quand même le rapport à l'argent dans tout ça. Donc voilà, moi je pense qu'une réforme des institutions en profondeur va être nécessaire avant que le pays explose.
Dernière question, Aurélie Gros. Il va donc y avoir encore toute la journée d'aujourd'hui des résolutions qui seront proposées sur les différentes thématiques, résolutions qui seront votées demain lors de la dernière journée. Qu'est-ce qu'on fait de ce sommet ? C'est quoi la suite après ces trois jours intenses à Lille ?
Alors après, les résolutions qui seront votées demain vont être mises en ligne sur le site et vont partir au vote nationalement. Tout le monde pourra voter sur ces résolutions et dire « moi, je suis pour ça, je suis pour ça » pour avoir le maximum de votes citoyens. Et ensuite, on ira... voir les décideurs, on ira faire le tour, comme d'habitude, apporter... On a eu des réussites hein, des précédents sommets, comme la déconjugalisation de l'AAH, c'était une des mesures. Les ratios patients-soignants, c'était une des mesures. On a eu aussi des mesures sur le mécénat et sur les plafonds pour les très petites entreprises qui ont été bougées dans le cadre de mécénat et d'achat d'œuvres d'art pour les petits artistes. Voilà, on a des choses qui passent. Donc la suite, ça va être de faire passer les choses et de montrer que quand 3000 associations sont ensemble, l'année prochaine, elles seront peut-être 6000 et l'année d'après, elles seront peut-être 10 000. Mais un jour, on sera peut-être 1 million. Et quand on aura 1 million d'associations qui sera dans le collectif à dire « nous, on veut changer les choses, on veut montrer que sur les territoires, il y a des choses qui se passent et qui sont merveilleuses », et bah, peut-être que nos décideurs vont se dire « ouï, va peut-être falloir un peu les écouter ». Donc on va évidemment porter tout ça. Et le final, c'est qu'on a quand même une élection présidentielle. Et donc, les trois sommets, bientôt le quatrième l'année prochaine, voilà, et toutes les réunions thématiques, toutes les étapes que nous faisons en France entière, bah, à un moment, ce sera une base programmatique citoyenne et on ira la porter aux candidats pour voir qui s'intéresse. On a eu le sujet des cahiers de doléances, c'est le sujet du jour, ça y est. Bah oui, vous vous rendez compte de la matière ? Il est temps. Ah, il est temps, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on pouvait aller beaucoup plus vite. Vous imaginez, tous ces gens qui ont pris du temps pour écrire, pour donner des idées, pour dire leur mal-être aussi, et on met ça aux archives départementales ? Eh bien oui, non, mais c'est sûr que ça va pas. Excusez-moi, mais c'est quand même aberrant. C'est aberrant.
Et c'est vrai qu'effectivement, cette question hein, des cahiers de doléances qui sont souvent restés au fond d'un tiroir, ben voilà, il était nécessaire que ça refasse surface et que cette parole soit au moins écoutée.
Eh bien, merci beaucoup Aurélie Gros, présidente d'Idéal Citoyen et cofondatrice de ce G500 d'avoir été notre invitée.
Et c'est ouvert à tous, tout le monde peut venir.
Merci de le préciser, on va le rappeler évidemment tout au long de ce marathon des idées citoyennes que nous faisons vivre sur les radios associatives en Hauts-de-France. Merci Aurélie Gros.
Merci.
Dans quelques instants, eh bien, on va continuer de parler justement d'investissement politique, la question du vote, en compagnie de Caroline Spahn, présidente de l'ONG A Voter, ONG de défense des droits civiques et du progrès démocratique, ainsi que Emmanuel Lansac, fondateur de la Coalition pour le renouvellement de la vie démocratique. Nous sommes en direct ensemble jusqu'à 13h. Vivez le marathon des idées citoyennes en direct sur vos radios associatives en Hauts-de-France. Voilà, et on est en direct, on attend nos invités qui vont prendre place dans quelques instants. On rappelle hein, que ce forum citoyen, ce sommet citoyen est organisé à Lille toute la journée d'aujourd'hui et vous allez pouvoir venir rendre une petite visite du côté du garage Lille-Lillois. C'est au 34 boulevard Carnot, on est à deux pas de la gare Lille-Flandre et on va à présent accueillir nos invités qui vont pouvoir s'installer. Allez-y. On accueille tout d'abord Caroline Spahn. Bonjour.
Bonjour.
Hop. Vous êtes présidente de l'ONG A Voter. Cette association a été créée en 2021 au lendemain des élections départementales et régionales. À l'époque, cette élection avait très peu mobilisé, c'est le cas de le dire, 66% d'abstention. 2 Français sur 3 cette année-là n'étaient pas allés aux urnes. C'est de ce constat qu'est née votre association.
Alors juste pour rectifier, je ne suis pas présidente, mais je suis membre du conseil d'administration.
Merci.
Donc voilà, je rends à César ce qui appartient à César. Mais merci de donner la voix à Voter. Alors effectivement, A Voter, c'est une ONG qui vise à promouvoir la démocratie, à encourager la participation électorale de chaque citoyen. Parce que pour nous, chaque voix compte. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est créé effectivement en 2021, parce qu'on voit que l'abstention augmente d'année en année, à l'exception de l'élection de 2024, des législatives anticipées. En revanche, voilà, le principal problème, c'est souvent lié à la malinscription sur les listes électorales. C'est un problème assez méconnu, mais qui concerne 10 millions de personnes qui sont souvent inscrites dans un bureau de vote dans une commune dans laquelle ils n'habitent plus. Et ça concerne majoritairement les jeunes. Donc voilà ce qu'on fait. On les encourage à aller voter, à les informer, à les sensibiliser, parce qu'encore une fois, chaque voix compte.
Et on accueille également Emmanuel Lansac. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de la Coalition pour le renouvellement de la vie démocratique, et je vous laisse nous présenter cette coalition.
Alors oui, je ne suis pas tout seul, hein. Je fais partie effectivement des cofondateurs de cette coalition qui regroupe plusieurs associations, notamment les Citoyens pour le renouvellement de la démocratie, Démocratie ouverte, Accord citoyen et bien d'autres, Sénat citoyen. Notre objectif, en fait, c'est de faire monter le sujet de la nécessité de refonder la démocratie ensemble et d'associer les citoyens à cette refondation de la démocratie à travers... trois étapes. La première, c'est le fait de faire des états généraux de la démocratie pour qu'il y ait des débats un peu dans toute la France sur faire monter ce sujet afin d'obtenir une assemblée citoyenne de la démocratie avec des citoyens tirés au sort qui puissent faire une proposition de réforme de la Constitution et de nos institutions. Et puis le troisième temps, qui est une validation nationale de cette proposition-là. Voilà. Donc on est sur un projet qui est ambitieux, mais qui s'inscrit dans une voie réglementaire, notamment la possibilité d'utiliser les pétitions citoyennes. Alors les pétitions citoyennes, c'est pas très connu, mais c'est une disposition qui existe depuis 2021, qui pour l'instant n'est jamais arrivée au bout de son processus. Mais si on obtient 150 000 signatures à cette pétition citoyenne qui demande... la mise en place des états généraux de la démocratie et une assemblée citoyenne de la démocratie, eh bien c'est constitutionnellement réalisable de pouvoir enclencher ce processus avant les présidentielles. Et nous, c'est ça notre enjeu, c'est de dire, en fait, mobilisons-nous pour refonder ensemble la démocratie dans laquelle on a envie de vivre, une démocratie qui soit plus solidaire, qui soit plus juste, qui soit consciente des enjeux pour aujourd'hui et pour les générations à venir.
Alors Emmanuel Lansac, vous le soulignez, ces pétitions citoyennes sont malheureusement jusqu'à présent pas arrivées au bout. Et c'est vrai qu'on entend souvent dans le débat public cette volonté, ça a été le cas notamment au moment des Gilets jaunes, d'avoir des référendums d'initiative citoyenne, des pétitions, on peut leur donner finalement le terme qu'on veut. Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à franchir ce cap du nombre de signatures à atteindre?
Alors,
est-ce que c'est une question de seuil, par exemple?
Alors, il y a une question de seuil, hein, parce que 150 000 signatures, ça ne se fait pas comme ça en un coup. Il faut avoir vraiment une vraie stratégie pour arriver à mobiliser. Et c'est l'enjeu, d'ailleurs, sur lequel nous, on est en train d'essayer de se mobiliser, d'avoir une vraie stratégie de mobilisation citoyenne pour faire monter ce sujet d'un processus citoyen constituant où réellement on se mobilise. La revendication, justement, lors des gilets citoyens, c'était des gilets jaunes, c'était ce référendum d'initiative citoyenne. Eh bien, c'est en fait se réapproprier la décision publique, hein, de participer à cette décision publique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour qu'il y ait un moment des référendums d'initiative citoyenne qui soit possible, il va falloir faire une modification de la Constitution. Ça ne peut pas se faire comme ça, on ne peut pas le décréter. Hein. Et donc, le premier temps, c'est justement de se dire, il y a plusieurs options qui sont sur la table. Il y a la place du référendum d'initiative citoyenne, il y a la place des assemblées citoyennes par domaine sociétal, les assemblées de codécision, quelle place de la proportionnelle, comment on prend en charge le vote blanc, enfin, toutes ces questions-là, et comment nos institutions vont évoluer pour qu'elles soient plus représentatives, pour que les citoyennes et les citoyens soient au cœur de la décision politique qui les concerne, qui participent à la construction de la loi, eh bien pour ça, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait un temps collectif de justement ces états généraux de la démocratie qui vont permettre d'avoir un grand débat national sur le sujet pour faire monter ça. Et on a une plateforme d'ailleurs de recueil des doléances pour que les gens puissent faire leurs propositions, et puis ensuite qu'il y ait réellement cette Assemblée citoyenne de la démocratie qui puisse faire la synthèse de l'ensemble de ces propositions et avoir une proposition concrète de réforme de la Constitution et de nos institutions, et après évidemment qu'on le fasse valider probablement par un référendum.
Alors, je me permets d'intervenir là-dessus, parce que est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu un effet contre-productif après le grand débat ?
Alors, effectivement, cette initiative, elle sort... Ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, comment ça s'inscrit dans l'histoire. Hein. Le grand débat, ça a été une manière de sortir de la crise des Gilets jaunes. Et puis, du coup... Il y a eu plusieurs propositions à ce moment-là, et notamment des plusieurs propositions de conventions citoyennes. Et celle qui a été choisie, c'était entre guillemets la plus facile, qui était celle sur le climat. Bon, après, tout n'a pas été suivi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été pour la première fois, un, des citoyens qui étaient mobilisés. Deux, de voir que les citoyens, en fait, ils ont fait des propositions qui étaient extrêmement constructives, qui allaient très loin. Après, le problème, c'est que c'était un objet qui ne rentrait dans aucun processus légal.
Puis ça a été un peu remisé dans un tiroir. Hein.
Alors, un petit peu, c'est vrai, mais d'un point de vue légal, en fait, ça rentrait dans rien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, justement, la proposition, c'est de dire, il y a eu quelque chose qui a été un moment politique extrêmement fort, c'était d'associer des citoyens. Ça a fonctionné, on a vu qu'ils pouvaient s'emparer de sujets extrêmement complexes, et là, maintenant, on pourrait le faire pour la démocratie, pour redéfinir les règles de façon très concrète, précise, et que ça s'inscrive dans la loi et dans notre Constitution, parce que c'est là où c'est important, c'est d'inscrire la participation citoyenne dans la Constitution, dans le processus légal.
Thierry ? Caroline Ospen, vous nous avez dit qu'il y avait... un problème d'inscription, et que c'est pour ça que les jeunes n'allaient pas voter. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que les jeunes ne se reconnaissent pas dans une classe politique, dans les classes politiques, qui n'ont plus de ligne directrice comme on pouvait en avoir dans le passé ?
Merci pour cette question. Alors, À Voter est une ONG qui est apartisane, donc nous, on n'encourage pas à voter pour qui que ce soit. Enfin, chacun décide. Mais justement, j'y viens. Effectivement, l'enjeu de l'offre politique est souvent posé sur la table. Est-ce que ça convient ou pas ? Après, je pense qu'il y a un certain nombre de partis politiques aujourd'hui, un certain nombre de choix. Je pense qu'il y a un enjeu toujours, en fait, de sensibilisation, de prendre en compte, effectivement... les différentes aspirations de la société, et on parlait juste avant des doléances. Ça a créé quand même une vraie fracture au sein de la société, parce qu'il y a énormément de personnes qui se sont mobilisées. Ça a été un engouement assez extraordinaire. Aujourd'hui, on peut saluer le fait que enfin ces cahiers soient à nouveau rendus publics. Donc il y a un enjeu de voir est-ce qu'il y a un besoin de les réactualiser, et comment des partis politiques, comment le pouvoir en place s'en ressaisit. Ça, c'est un enjeu. Et de voir aussi de quelle façon l'engagement, et notamment des plus jeunes, est pris en compte. On voit à quel point les jeunes sont une force mobilisatrice incroyable. Les marches pour le climat, aujourd'hui, évidemment, sur la thématique de la guerre en Israël-Palestine, on voit qu'il y a énormément de jeunes qui se mobilisent envers une société beaucoup plus pacifiée. Et ça doit aussi irriguer tout le processus politique, et notamment la création des programmes politiques des différents partis.
Pour lutter contre l'abstention, est-ce qu'en France, le vote est un droit et non pas un devoir ? Est-ce qu'il faudrait pas prendre l'exemple de nos amis belges, nos voisins belges, où là-bas, on vote la semaine et on vote sur son temps de travail, et on est obligé, entre guillemets, on est obligé d'aller voter, sinon, au bout de quelques abstentions, on prend des sanctions ?
Yep. Plein de façons peut-être de relancer la participation. Effectivement, ça s'en est une. Il y a un rapport parlementaire qui a été sorti et qui vient de démettre l'idée que le premier vote devrait être obligatoire. Voilà. En fait, il y a plein de façons. Après, j'estime que c'est en fait aux citoyens de décider. Est-ce qu'on doit rendre le vote obligatoire ? Est-ce qu'on doit rendre tous les votes obligatoires ? Est-ce qu'on doit permettre de voter un peu partout, pas seulement dans un bureau de vote, dans l'école à côté, mais en fait potentiellement au supermarché ? Il y a plein de façon, et je pense que là, la démocratie mérite une petite touche de renouveau, et c'est tout ça, et c'est pour ça qu'on se réunit tous aujourd'hui, parce que, en fait, je ne pense pas qu'il y ait une seule solution. La bonne solution, ça sera celle qui sera choisie, si possible, de façon majoritaire par les citoyens.
Au-delà de cette question du caractère obligatoire ou non du vote, comment est-ce qu'on simplifie cette situation que vous nous évoquiez de toutes ces personnes, très nombreuses, près de 10 millions, qui sont mal inscrites sur la liste électorale ? Ça me paraît toujours assez fou, à l'heure où en un clic, on peut déménager et faire suivre tous les prélèvements et toutes les factures, que ça ne suive pas sur le plan des listes électorales. Comment est-ce qu'on l'explique ?
Bah justement, vous prenez un bon exemple sur le déménagement. Nous, on milite pour que tous les gros organismes, par exemple d'énergie, lors de la première facture de la personne, indiquent « Coucou, changez votre liste d'inscription, enfin votre bureau de vote ». Donc ça, on milite pour ça. On milite aussi pour une facilitation de la procuration, parce qu'aujourd'hui, se rendre dans un commissariat pour déposer sa procuration, bah, en fait, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc il y a plein en fait de barrières informationnelles, administratives, qui méritent d'être levées. Et on a l'impression, et votre question elle est très juste, que en fait c'est facile, mais en fait c'est pas facile pour tout le monde. Et en fait, le vote aussi, c'est pas seulement 2-3 jours avant d'aller voter. En fait, c'est que les citoyens se sentent considérés. Et donc là, il y a un enjeu à travailler avec des associations au plus près du local, au plus près de publics spécifiques. Voilà, je pense aux personnes handicapées, les personnes en QPV, c'est des personnes auxquelles on ne s'adresse jamais. Et en fait, à un moment donné, on ne peut pas s'adresser à elles seulement 2 semaines avant un vote, parce qu'on estime que leur voix fait la différence. En fait, il y a toute une sociabilisation autour du vote. On parle aussi de solitude. La solitude, c'est aussi une des principales causes de l'abstention, aussi du vote pour l'extrême droite. Donc c'est comment, en fait, on renforce ça, c'est comment, en fait, on montre qu'on fait encore société. Et aujourd'hui, ça, c'est pas des grands mots. C'est la réalité de la situation face à laquelle on fait face.
Je vous pose la question à tous les deux, Emmanuel Lansac et Caroline Spahn. Est-ce que le cœur du sujet, ce n'est pas aussi la réappropriation de la politique par les citoyens ?
Ah bah, je pense que c'est très très bien résumé. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est réellement de remettre les citoyennes et les citoyens au cœur de la décision politique, et donc se réapproprier ce sujet-là, il est très important. Il y a sûrement un travail de pédagogie, de mobilisation. Après, je crois qu'il y a un enjeu, et en tout cas nous, c'est notre appel, c'est-à-dire qu'on milite depuis des années pour qu'il y ait cette Assemblée citoyenne de la démocratie, pour avoir ce temps de réflexion collective, ce temps de construction de la démocratie dans laquelle nous avons envie de vivre, pour nous, aujourd'hui, et pour les générations à venir. Et il y a une action qu'on peut faire tout de suite, qui prend à peu près moins de 5 minutes, c'est justement de signer cette pétition sur le site du CESE. Si vous allez sur un moteur de recherche sur Internet, vous faites « Ensemble, refondons la démocratie ». Et il y a une pétition, vous mettez pétition et vous trouverez sur, et on le mettra je pense sur le site de la radio, c'est la possibilité d'aller signer justement et de s'approprier ces outils qui depuis 2021, c'est très récent, hein, depuis 2021, sont dans la loi et qui instituent un pouvoir citoyen à travers ces pétitions citoyennes. Et je pense que ce serait formidable que la première pétition citoyenne qui atteignent les 150 000 signatures, soient celles qui nous permettent de refonder notre démocratie pour remettre justement les citoyennes et les citoyens au cœur de la décision politique, pour construire ensemble une société qui soit plus juste, plus solidaire, consciente des enjeux pour nous et pour les générations à venir.
Oui, pour moi, la démocratie, c'est vraiment l'affaire de tous. Et c'est comment, en fait, chacun comprend que tous ces choix et ces choix quotidiens sont, en fait, une affaire politique. La façon dont on consomme, la façon dont on bouge, le sport qu'on fait, enfin, tout ça, en fait, ce sont des petits actes. Et quand je parle du vote, souvent, je demande, et notamment quand on va dans des festivals, tout ça, je dis, mais est-ce que vous avez voté pour à la Starac ? Oui, bon, bah voilà, bah, ça, c'est cool, en fait. Ça, c'est un vote, en fait. C'est, on fait valoir sa préférence, son choix. Et en fait, tout ça, ça s'incarne au quotidien. C'est pas seulement au moment de grandes élections avec des partis où il y a des débats par moments très qu'on peut penser un peu trop théorique et un peu loin de la pratique et du quotidien des gens. En fait, la démocratie, elle est là, elle est au quotidien. Et par moments, on se rend même plus compte parce qu'on a eu la chance à peu près, et là je vous vois, mais On a tous eu la chance de naître dans un pays démocratique et aujourd'hui on se rend compte que ça c'est en fait très fragile et qu'il faut se mobiliser et que c'est pas un grand mot, c'est cool de vivre dans un pays où on est libre de ses choix et je pense que j'espère que davantage de personnes en prendront conscience.
En 30 secondes, Emmanuel Lansac, il faut, pour rebondir sur l'exemple de Caroline Spahn, il faut vraiment aussi qu'on apprenne à se réapproprier ces petits votes du quotidien, ces petites choses du quotidien. Prenez l'exemple de la Star Academy. Alors, c'est un vote comme un autre, mais c'est aussi un premier vote. On doit se réapproprier ces choses-là.
Même au niveau local, surtout.
Même surtout au niveau local, d'ailleurs.
Oui, ça, je pense. Et justement, dans la manière dont on doit refonder la démocratie, ce serait peut-être justement d'avoir plus la possibilité de voter au quotidien. Je pense que c'est vraiment important ce que disait Caroline, c'est très juste, c'est-à-dire qu'en fait, certes, quand on parle démocratie, ça paraît un peu lointain, mais en fait, c'est très proche du quotidien et que ça vient impacter en fait beaucoup de nos problématiques sur lesquelles on peut se heurter à titre personnel ou dans nos engagements associatifs. Et s'il y a bien une convergence des luttes qui existe, c'est celle de la décision politique. C'est justement là que ça s'inscrit. C'est là où on peut se réunir, parce que c'est un socle commun qui est celui qui va impacter après tout le reste de nos engagements et notre vie quotidienne. Donc oui, c'est petit vote du quotidien. Et puis prendre 5 minutes pour aller voter sur un sujet aussi important qu'est celui de refonder notre démocratie, ça vaut le coup de le prendre.
Pétition, effectivement, en ligne, vous tapez « Refondons la démocratie », pétition portée sur le site du CESE, n'hésitez pas à aller signer si vous le souhaitez, cette pétition. Merci beaucoup Emmanuel Lansac, cofondateur de la Coalition pour le renouvellement de la vie démocratique, et merci également Caroline Spahn, membre du conseil d'administration de l'ONG, à voter, d'avoir été à notre micro.
Merci à vous.
Merci.
Citoyens, associations et experts prennent la parole au micro de vos radios associatives en Hauts-de-France pour une démocratie vivante et participative. Le sommet citoyen, parlons enfin de ce qui compte. Et ce marathon des idées citoyennes sur les radios associatives en Hauts-de-France se poursuit à 10h35. Nous allons accueillir dans un instant Katia Dayan qui est responsable des Papillons de Jour, une... fondatrice, pardon, des Papillons de Jour, qui est une agence de communication et entreprise adaptée. Eh bien, on va parler justement de cette structure. Bonjour Katia Dayan.
Bonjour.
Quelques mots pour nous présenter les Papillons de Jour.
Alors, les Papillons de Jour, ce sont aujourd'hui des entreprises adaptées, donc avec 80% de salariés en situation de handicap, visibles ou invisibles. Ce sont des agences de communication 360 qui ont la particularité et la volonté de pouvoir exercer un métier dans la com et dans les nouvelles technologies autant que des agences traditionnelles. Et en tant qu'entreprise adaptée, depuis plus de 15 ans maintenant, on a 5 agences en France. Papillon de Jour a pu prouver, en tout cas essaye, de démontrer que oui, on peut embaucher et on n'embauche que sur de la compétence, qu'on peut avoir une situation de handicap, quelle qu'elle soit, en tout cas, et que si nous avons des compétences, on est tout à fait apte à travailler.
Parce que y a un constat que l'on peut faire, un constat terrible, c'est qu'il est parfois plus simple pour une entreprise de payer les amendes parce qu'on n'emploie pas assez de personnes en situation de handicap plutôt que d'aménager un poste de travail.
Alors, par rapport à l'amende, par rapport à l'obligation d'emploi de personnes en situation de handicap et des 6%, effectivement, c'est un peu le curseur. C'est-à-dire que il y a plus de 15 ans, 17 ans, certaines entreprises, d'abord, il n'y avait pas autant de communication sur le handicap, donc c'était un sujet extrêmement tabou. On n'en parlait pas trop. Alors, les entreprises préféraient peut-être payer cette taxe que d'embaucher, parce que c'était compliqué pour eux d'adapter un poste, comme vous le dites si bien, ou bien de comprendre comment accueillir une personne en situation de handicap. Il faut savoir que les chefs d'entreprise, que ce soit de grandes entreprises ou de TPE, PME ou autres, même des grands groupes, n'avaient pas il y a 15 ans la facilité et la connaissance sur ce sujet. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que depuis 15 ans, beaucoup de choses ont changé. Les entreprises, aujourd'hui, veulent et travaillent sur l'employabilité. C'est juste une question d'accessibilité. il n'y a pas toujours de l'accessibilité pour permettre aux entreprises, ben, ou aux personnes, hein, aux futurs salariés en situation de handicap, de pouvoir se rendre à leur poste de travail. Moi, je suis sur Paris. Je sais qu'à Paris, c'est très compliqué de prendre le métro, le train. Il y a une seule ligne, la ligne 10, je crois. Non, pas 10. La ligne 14, qui est...
La plus encombrée.
Qui est accessible, enfin, qui est, entre guillemets, accessible. Pour les personnes en situation de handicap, alors il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. La SNCF a fait pas mal d'efforts aussi, mais bon, la RATP aussi. Mais c'est vrai que sur Paris, pour circuler, c'est compliqué. Donc, oui, les entreprises à l'époque voulaient préférer, en tout cas, s'acquitter de cette amende, alors qu'aujourd'hui, on a une passerelle. On a une passerelle parce qu'on a le secteur adapté, le secteur protégé, CAT et ESAT qui sont des centres de travail médicalisés, socio-médicalisés, et vous avez les entreprises adaptées qui sont des entreprises tout à fait traditionnelles, agréées par l'État, par la DRET, et donc nous avons cette possibilité de dire, oui, aujourd'hui, l'emploi peut être fait indirectement par une entreprise adaptée qui va servir de passerelle, mais qui va aussi vous délivrer des prestations de services dont vous avez besoin, faites par des personnes en situation de handicap qui vont vous permettre d'avoir cette déduction d'amende, oui.
Justement, à propos d'amende, n'aurait-il pas fallu adapter l'amende en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise plutôt qu'en fonction du nombre de salariés? Oui. Un exemple, une PME va payer le même prix quasiment qu'une multinationale.
Non.
Et excusez-moi. Et cet argent n'aurait-il pas été justicieux, de le placer dans la rénovation, puisque vous parlez de Paris, on a eu les Jeux Olympiques l'an dernier, et Paris, par rapport à Tokyo, c'est 80% des stations de métro qui sont accessibles aux handicapés, alors que Paris, c'est 11%.
Tout à fait.
Est-ce que cet argent-là n'aurait pas pu servir justement à financer l'adaptabilité?
Alors, vous avez complètement raison et je vous rejoins à 100%, même 200% sur Paris-Tokyo et sur cette comparaison, puisque nous, on est à 11%. Je pense que Paris a les moyens aujourd'hui de pouvoir faire des travaux sans forcément ponctionner sur les budgets de la GFIP qui aujourd'hui sont reversés à l'URSSAF et ensuite à la GFIP. Ça, c'est encore un autre sujet. En revanche, quand vous dites que la contribution doit être calculée par rapport au chiffre d'affaires, non, parce que par rapport aux outils de calcul que M. Chirac avait mis en place par rapport aux heures de travail, une entreprise qui a plus de 20 salariés, quand elle va compter ses 6% par rapport à son effectif à temps plein de salariés, eh bien, les coefficients de calcul ne vont pas être les mêmes qu'une entreprise qui va avoir 50 salariés ou 10 000 salariés. Donc, dans le ratio financier, une entreprise s'y retrouve totalement, puisqu'elle est calculée par rapport au nombre de salariés. Si j'ai 21 personnes, bon, ben, mon calcul, le taux horaire du SMIC fois 400, enfin, ce sont des calculs extrêmement précis, ne va pas être impacter le chiffre d'affaires et c'est pas du tout pareil, hein. Donc vraiment une entreprise qui a 22 salariés, une entreprise qui en a 30, 50, etc., les calculs qui permettent de calculer la taxe aujourd'hui ne va pas avoir d'impact, si vous voulez, et elles ne sont pas du tout mises au même piédestal, donc rassurez-vous, non, ça n'a strictement rien à voir et elle ne paye pas la même chose qu'une grande entreprise ou une grande... Non, en tout cas, sur ce sujet-là de l'handicap et de l'obligation d'emploi, absolument pas.
Katia, Diane, est-ce que justement, au niveau des entreprises, on forme suffisamment aujourd'hui à l'accueil des personnes en situation de handicap? J'enfonce peut-être une porte ouverte, j'imagine que ça évolue quand même, je l'espère dans le bon sens, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui?
Alors, depuis plus de 15 ans, 16 ans, je fais ce métier, donc je suis vraiment dedans. Aujourd'hui, on travaille vraiment sur des modules d'information. C'est-à-dire que on jetait beaucoup la pierre sur les entreprises, c'est vrai, mais il faut aussi savoir accueillir une personne en situation de handicap. Comme un salarié lambda, comme un salarié traditionnel, la culture de l'entreprise, l'adaptabilité du poste, lui expliquer aujourd'hui, lui présenter ses collaborateurs, ses collaboratrices. Et oui, effectivement, aujourd'hui, on fait beaucoup de formations. Papillon de Jour donne beaucoup de formations dans les entreprises, effectivement, pour l'accueil de personnes en situation de handicap. Parce que nous, on est vraiment sur du pérenne, sur du long terme. Enfin, C'est vrai. Un salarié n'est pas un pot de fleurs que l'on prend pour subvenir un salarié handicapé non plus. Donc oui, on accueille une personne humaine avec des compétences, avec un CV, des missions. Et ça, c'est très important de former aussi en interne, sans jeter la pierre sur les entreprises en disant « elles ne veulent pas embaucher, moi j'y suis toute la journée et je vois leur véritable volonté et le progrès qui est fait depuis plus de 15 ans ». Avant, je ne sais pas, mais...
Alors, Katia, Dayan, vous...
Oui.
Pardon. vous avez aussi... Les Papillons de Jour, c'est aussi une agence de communication qui produit des campagnes de sensibilisation sur le handicap. Ça fait plus de 15 ans que vous faites ça. Oui. Comment est-ce que la sensibilisation a évolué? J'imagine qu'on ne communique plus de la même manière au gré des évolutions de la société qu'il y a 15 ans. Comment est-ce que ça évolue?
Vous avez tout à fait raison. On n'évolue plus pareil et les campagnes ne sont plus du tout. D'abord, elles sont très interactives. Donc, il y a beaucoup de team building, il y a beaucoup... On implique les collaborateurs, on crée des modules, nous, et on a des campagnes de sensibilisation qui vont impliquer les collaborateurs, ça se passe par petits groupes ou par grands groupes, et on va rentrer dans le sujet déjà, qu'est-ce que le handicap, comment accueillir, quelles sont vos peurs, et on arrive à s'adapter par rapport à l'ADN de l'entreprise, justement, à communiquer en fonction de leurs besoins, donc ils nous soumettent un cahier des charges avec une multitude de questions, très à l'aise, quelle qu'elle soit. Et nous, on va construire des campagnes de communication, des campagnes de sensibilisation en fonction du besoin et des valeurs de l'entreprise.
J'avais une question, moi, plus centrée sur l'aspect démocratie, participation des personnes en situation de handicap au niveau démocratique, parce que c'est un petit peu aussi l'enjeu de cette journée, de ces trois jours. Quand on regarde l'Assemblée nationale, bon, en matière d'accessibilité, ce n'est pas terrible, hein, on va dire les choses. Est-ce qu'il faut, à votre avis, mettre en place, je ne sais pas, un quota pour permettre une meilleure représentativité des personnes en situation de handicap chez les élus, dans les instances de décision?
Oui, vraiment. Idéal citoyen avec Aurélie Gros, comme je fais partie des cofondateurs. C'est ça, en fait, idéal citoyen. C'est vraiment donner la parole aux citoyens, handicap ou justice ou santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous sommes représentés par des ministres qui font très bien leur travail, ou pas. Et moi, je ne fais pas de politique, hein, je suis apolitique. Ma seule politique, c'est le handicap et l'insertion de personnes en situation de handicap, au même titre que d'autres de personnes. Mais oui, on devrait être représenté, mais complètement. Il devrait y avoir des... Nous, on est sur le terrain toute la journée. On n'est pas derrière un bureau. On est dans les entreprises, on est dans les écoles, on est dans les hôpitaux. On accompagne, on reçoit des mamans, on reçoit des candidats. J'ai fait avec Hugo Duval un salon pour l'emploi. Une ruche est arrivée vers nous en nous disant, ben voilà, moi je suis webmaster, je suis webdesigner. À ce qui paraît, vous embauchez. Enfin, oui, le gouvernement doit demander aux citoyens, selon leur spécificité, d'être à l'Assemblée nationale, bien sûr. Nous, on a eu l'agrément ESUS, c'est-à-dire qu'on est une entreprise adaptée. En plus d'être une entreprise adaptée, on est en plus une entreprise agréée, sociale et solidaire. Combien de personnes restent sur le carreau, sont sans emploi, handicap ou pas? Donc nous, on est là pour les accueillir. Encore faut-il savoir, et encore faut-il qu'ils sachent ce qui se passe. On ne communique pas assez sur les EA, on ne communique pas assez sur le handicap. Quand c'est fait, c'est bon, très standardisé souvent. Je suis pas dans la critique parce que je regarde toujours le verre plus plein que vide, mais oui, je suis complètement d'accord avec vous.
D'autant que, rappelons-le, les personnes en situation de handicap, ça représente 10% de la population française.
Oui. Et je pense que ça représente un petit peu plus entre nous. Je pense que les statistiques ne sont pas toujours...
Oui, parce qu'il y a des situations qui ne sont pas déclarées, des personnes qui hésitent à se mettre à se déclarer officiellement comme étant en situation de handicap, etc. Et donc c'est vrai que le passage n'est pas toujours évident.
C'est ce qu'on voit pendant nos formations. On aide les entreprises non seulement à expliquer ce que c'est que le handicap par rapport à leurs demandes, par rapport à leur cahier des charges, mais en plus, il y a des personnes en situation de handicap qui sont en interne, salariées, et qui vont aller se déclarer parce qu'elles vont sentir que leur entreprise se sent concernée par la vie privée de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. Une entreprise n'existe pas sans ses salariés, en fait.
Et Julien, oui.
Non, non, vas-y, je fais. J'ai une question. Vas-y. Eh bien, si, une question tout de même, parce que vous, vous êtes présente depuis le début de ce sommet citoyen à Lille. On vous a vu notamment spectatrice assidue de la table ronde sur l'information hier. Vous êtes venue forcément porter des résolutions en lien avec le handicap, mais en tant que spectatrice, finalement, qu'est-ce que vous êtes venue chercher sur ces journées lilloises ?
Alors déjà, Lille, merci pour cet accueil. Ça, c'était très important de le signaler parce qu'on a été très bien accueillis. Ce que je suis venue chercher, c'est... comment dirais-je ? Alors, chercher, je ne sais pas, mais porter la parole et écouter. Parce que je fais de la communication toute la journée et c'est vrai que l'information est un véritable sujet aujourd'hui. On en a parlé hier. Et les opinions étaient diverses et variées. Mais oui, ne transformons pas l'information. Nous sommes des relais. Vous êtes en face de moi, on est en direct. Nous sommes des relais de l'information. Et nous ne devons pas influer sur l'information que nous diffusons. Nous devons la donner telle qu'elle est, en temps réel.
Eh bien, merci beaucoup, Katia Dayan, fondatrice des Papillons de Jour, agence de communication entreprise adaptée, d'avoir été à notre micro.
Merci à vous de m'avoir reçue.
Et avec grand plaisir. Le sommet citoyen du G500, ça se passe à Lille et c'est à vivre en direct sur vos radios associatives en Hauts-de-France. Quasiment 10h50 sur vos radios associatives en Hauts-de-France, en direct du garage à Lille à l'occasion de la troisième édition du sommet citoyen du G500. Et nous allons accueillir dans quelques instants Annie Levi-Mosiconacci d'Innovon pour Marseille Métropole Méditerranée. Le temps que notre invité s'installe, on parlera également handicap à nouveau tout à l'heure à partir de 11h. On s'intéressera au monde de la justice également dans cette émission spéciale. On aura un volet également sur la citoyenneté et la santé. On parlera également de santé et puis on s'intéressera aux médias et à la démocratie. Annie Levi-Mosiconacci, bonjour.
Bonjour.
D'Innovon pour Marseille Métropole Méditerranée. Je vous laisse nous présenter cette structure.
Très bien, bonjour à tous. Donc Innovon, un grand mot. Pour Marseille Métropole Méditerranée, une association qui est née il y a maintenant 10 ans, sur un constat simple que en fait le citoyen devait participer à la vie, pas politique, mais la vie de sa cité, de sa région, de son département et de la Méditerranée, puisque Marseille est une ville méditerranéenne. Et donc un peu à l'image, et d'ailleurs Innovons pour Marseille Métropole Méditerranée a été un petit peu le modèle pour créer Idéal Citoyen. L'idée était de mettre en contact des citoyens sur des problématiques qui touchent la ville. Au moment où la métropole de Marseille se mettait en place, on a pensé qu'il fallait donner la parole aux citoyens. Et donc, on a souhaité mettre en avant des problématiques qui touchent les citoyens, qui étaient souvent laissés de côté dans la mise en place de la métropole. Et donc, on a mis en contact des experts pour venir éclairer des citoyens et on a proposé des résolutions. Un peu le modèle aujourd'hui d'Idéal Citoyen. Et donc, Innovons pour Marseille Métropole est un peu, je dirais, l'embryon de ce qu'a pu donner Idéal Citoyen.
Est-ce que vous avez un ou deux exemples à nous
bien
donner ?
Bien sûr que j'ai des exemples à vous donner. Premièrement, nous avons beaucoup travaillé sur la notion de santé environnementale, puisque nous avons lancé il y a quelques années un appel de Marseille pour que on puisse, vous savez, Marseille et la région de Marseille est la ville la plus polluée de France, Marseille. Et autour de Marseille, dans le bassin de la métropole, il y a des villes qui ont une grande industrie comme l'étang de Berre, etc. Alors c'est vrai que je suis médecin de formation et j'ai été sensibilisée par des problématiques de santé environnementale et on a lancé un appel de Marseille pour qu'on mette en place des registres nationaux des cancers et des malformations fœtales parce qu'on considérait qu'il était important d'avoir cet outil pour pouvoir identifier des problématiques et pouvoir avoir des leviers par rapport à la population. Cet appel a été présenté au Sénat Et donc, aujourd'hui, on a un registre des cancers. On est arrivé à l'obtenir. Le registre des malformations est toujours dans les rails, mais on ne désespère pas. Si vous voulez, je peux vous donner d'autres exemples.
Ce que vous faites à Marseille, Innovons pour Marseille Métropole, est-ce un laboratoire qui peut être transposé dans d'autres villes? La problématique de la santé environnementale, on la retrouve également ici à Lille.
Complètement. C'est tout à fait pour cette raison d'ailleurs qu'on est en lien avec, bien sûr, d'autres associations qui travaillent sur cette problématique. Et on a pris conscience également que dans les villes autour de la Méditerranée, il y avait aussi cette problématique. Je pense à Gabès en Tunisie, où il y a une industrie de phosphate qui déverse dans la Méditerranée. Et on se rend compte, en effet, qu'il y a toute une démarche citoyenne qui pourrait aussi intéresser toutes les populations, les pays de la Méditerranée, au-delà de la France. Et c'est un peu ce qui nous anime aujourd'hui, en tout cas.
Alors, vous êtes ici au micro des radios associatives en Hauts-de-France. Alors, forcément, pour nous, Marseille, c'est un petit peu éloigné. Mais Marseille a une spécificité, c'est qu'elle fait partie des trois villes dont les élections se font aussi sous forme d'arrondissements, puisqu'il y a des arrondissements à Paris, à Lyon et à Marseille. Est-ce que ce découpage administratif... est-ce que ça incite plus les gens à prendre part à la vie de leur quartier, à la vie de leur arrondissement ?
Alors, c'est intéressant votre question, puisque en fait, Innovons pour Marseille Métropole Méditerranée est né en fait de l'engagement de moi-même, hein, société civile, dans la vie politique, puisque j'ai été conseillère municipale et de métropole pendant 6 années. De 2014 à 2020, et je me suis rendu compte en effet que ces arrondissements, le fait que ça soit découpé en arrondissements, devait favoriser justement l'implication des citoyens. Mais, je pense que peut-être qu'à Lille, vous avez déjà ces mécanismes, c'est qu'en fait... une fois les élus au conseil municipal, par exemple, ils ne revenaient jamais vers les personnes qui les avaient fait élire. Et donc, dans les arrondissements de Marseille, nous avons fait des cafés. I2M a mis en place des cafés citoyens pour que, justement, avant les délibérations au conseil municipal, on puisse discuter en amont des prises en compte des délibérations. Je pense qu'en effet, le fait qu'on s'organise en arrondissement doit permettre cette proximité. Après, c'est toutes les lois PLM. Bon, voilà, on peut revenir dessus si vous voulez.
Alors, comment vous expliquez qu'effectivement, les élus, une fois qu'ils sont élus, effectivement, ne vont plus vers leurs citoyens, vers leurs électeurs? Parce que c'est quand même la base.
Ben tout à fait. Donc c'est, je pense que la discussion hier tournait d'ailleurs ici dans le cadre idéal citoyen sur justement cette notion de démocratie. Est-ce qu'une fois qu'on donne un suffrage à un élu, est-ce que ça lui donne tous les pouvoirs pour aller porter une parole qu'il pense être la bonne, ou est-ce qu'il n'y a pas un temps où il faudrait qu'il retourne vers ses électeurs pour leur demander leur avis, pour aller donner leur suffrage. Je pense que ce retour vers les électeurs n'existe pas. Et il me semble que c'est, d'ailleurs, ça a été la raison d'Innovons pour Marseille Métropole, parce qu'on a pensé que les délibérations, grandes décisions devaient se faire en retournant vers les citoyens. Je donne un exemple. Il est question de voter, par exemple, l'attribution des places dans un port. Ce n'est pas la question de Lille, mais c'était la question de Marseille.
Il y a un port à Lille.
Il y a un port à Lille. Alors voilà, vous voyez, je manque de culture.
Mais on en apprend tous les jours.
Et ben, l'idée, c'est que pour voter à un conseil municipal ou un conseil de la métropole, l'idée, c'est d'aller voir les acteurs. Les acteurs, c'est les utilisateurs du port, c'est les travailleurs sur le port, c'est... Voilà. Et à partir de là, on a une idée qui est le plus proche du terrain. Et c'est cette démarche-là que je ne vois pas se mettre en place. Et je crois que les associations citoyennes, lorsqu'on parle de politique participative, lorsqu'on parle de démocratie participative, on oublie un temps, on oublie ce temps où... Avant de voter, eh ben, il faut retourner voir les compétences. Les compétences, c'est les associations. C'est, voilà, c'est un peu ça mon modèle.
Quel est le bon équilibre à trouver entre élus et citoyens dans les décisions? Parce que c'est un petit peu la question qu'on se posait hier en préparant l'émission avec Thierry. Thierry me dit à un moment, mais finalement, j'ai envie de poser la question, mais à quoi servent les élus?
Moi, je vais répondre la façon dont on a créé Innovons, justement, Innovons pour une autre politique, en fait. Hein. C'est un peu ça, le message. Et chaque fois, on a essayé on essaye d'y répondre. Les élus portent la voix. Mais la voix de qui? La voix des électeurs.
De leurs électeurs, en
de leurs électeurs.
Ou de leur parti.
Ou de leur parti, bien évidemment. Permettez-moi de vous parler d'une anecdote pour vous dire à quel point, en tant que société civile dont je fais partie, puisque je suis médecin de formation et de profession, je me suis engagée en politique dans la ville de Marseille, où je suis venue faire mes études. J'aurais pu faire mes études à Lille et je pense que me serais engagée sans doute dans la ville, parce que pour moi c'était important de rendre, entre guillemets, à la ville ce qu'elle m'avait donné. Voilà. Et donc, mon engagement était fortement citoyen. Pour vous dire, donc, à l'époque, j'étais dans l'opposition à M. Godin, donc j'étais socialiste, et on avait fait un score suffisant pour être à la tête de la ville. Mais moi, béatement, je pensais que si on avait 42%, 42% des sièges au conseil municipal allaient nous être affectés. Je n'avais pas compris que, finalement, une élection municipale, quand on n'était pas majoritaire,